Radio Okapi. Okapi. Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Comment prévenir la mort par asphyxie causée par le gaz du volcan? On en parle dans cette émission Okapi Service avec le professeur Théophile Mbemba, docteur en chimie. Et nous allons également faire le point de la situation ce matin à Goma avec Marin Gavo, président de la société civile de Goma. Marin Gavo, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission de la vie au quotidien au Capi Service. Vous avez des questions et préoccupations par rapport à ces sujets, appelez au 081 890 63 94. Écrivez-nous également à service@radiocapi.net. Comment protéger la biodiversité en République démocratique du Congo? Ce sera le deuxième sujet de cette émission à partir des 11h05, heure de Kinshasa. Mimi Kindou à la mise en onde, Tati Mapoukou coordonne et assure la réalisation de cette émission qui présente Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous et excellente condition d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Dialogue entre Congolais. Les débats politiques, c'est dans Dialogue entre Congolais. Tous les jours, acteurs politiques, décideurs sociaux et journalistes informent, expliquent et débattent de l'actualité au quotidien sur nos antennes, mais jamais sans vous. Car Dialogue entre Congolais, c'est aussi vos questions et vos réactions. Dialogue entre Congolais, de lundi à jeudi, de 19h15 à 20h et sur Internet, sur www.radiocapi.net.
Comment prévenir la mort par asphyxie causée par le gaz du volcan Nyiragongo à Goma, au Nord Kivu? On dénombre de plus en plus de morts par asphyxie suite à l'inhalation du gaz que dégagent les laves du volcan Nyiragongo. D'après les responsables de l'OVG, près de 7 personnes ont perdu la vie à Kibati dernièrement, alors qu'ils tentaient de traverser la route coupée par la lave du volcan. Les dioxydes de carbone qui s'échappent du volcan a fini par les asphyxier. Par ailleurs, ce gaz représente un danger permanent pour l'eau et autres denrées alimentaires. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour prévenir les cas de décès, d'autres cas de décès par asphyxie? Nous allons en parler tout à l'heure avec le professeur Théophile Mbemba, qui est docteur en chimie. Avant cela, nous faisons le point de la situation avec Marin Gavo, qui est président de la société civile de Goma. Marin Gavo, encore une fois, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, dites-nous comment se présente la situation aujourd'hui à Goma.
Ok, ce matin, la population s'est réveillée avec la peur au ventre. Certes, la nuit, il n'y avait pas assez de tremblements. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a un tremblement récurrent et persistant dans la ville de Goma. Les bâtiments sont en train de subir ces tremblements, que ce soit les bâtiments à plusieurs étages ou des bâtiments à faible étage, c'est-à-dire rez-de-chaussée ou un niveau. Et cela se traduit aussi par des fissures qui sont déjà visibles dans certains coins de la ville de Goma. Par exemple, au niveau de l'hôpital général, la route, il y a des fissures juste à côté de l'alimentation communément appelée Steven Shop. À l'Estigo, par exemple, en face de l'ISC, il y a aussi une fissure dans la route. Au lycée Amani, qui est en diagonale avec le Tembe, aux côtés de rond-point Signers, il y a une fissure. On a remarqué aussi une petite fissure au niveau de Notre-Dame d'Afrique. Notons également que certaines fissures se font remarquer sur les murs de bâtiments, mais aussi sur des clôtures. Mais ici, allons noter que ces fissures ne sont pas grandes et que c'était lié au non-respect des normes de construction au niveau de la ville de Goma. Mais dans le gros, des maisons ne sont pas encore touchées et on n'a pas vu de maisons. Nous avons trouvé aussi une flambée des coûts des denrées alimentaires liées, n'est-ce pas, à la coupure de la route entre Goma et Rutshuru. Les enfants qui ont perdu leur famille continuent à rechercher leurs parents. Il y a également et encore la fermeture des écoles après l'histoire Ebola. Les gens passent la nuit à la belle étoile pour deux causes. La première cause, c'est le fait d'avoir perdu de maison au niveau des Bouhénés. La deuxième cause, c'est la peur de rester aux côtés et dans des maisons alors qu'il y a tremblement. Donc ça, c'est la situation qui est maintenant dans la ville de Goma. Les activités sociales et économiques ont commencé, mais avec une lenteur. Les gens se réservent encore de se promener, d'aller travailler, et plus ils veulent rester aux côtés des enfants et des familiers.
Bien. Alors, Marin Gavro, qu'est-ce qui s'est passé à Kibati où on a appris qu'il y a des personnes qui sont mortes asphyxiées par le gaz?
Ces personnes qui sont étaient mortes, ça veut dire qu'ils ont été surpris. Comme nous avons regretté que l'OVG n'a pas annoncé, ils ont été surpris par la coulée de lave. Certains doutaient de ne pas aller, et ça c'était les personnes qu'on a trouvées le 4 d'abord, hier, et que la lave leur a retrouvé, le gaz leur a retrouvé. De l'autre côté, les gens par curiosité veulent aller là où il y a la lave, veulent aller là où il y a encore la chaleur, veulent aller là où il y a encore des fissures au niveau des Nyiragongo pour curiosité. Les autres vont pour question de tourisme, prennent même des selfies et remplissent les réseaux sociaux. Et donc, les autres ont dit que leurs amis, leurs familiers allaient pour chercher de quoi manger. Et donc, ça, ce sont les premiers éléments que nous avons eus sur le cause de cette asphyxie.
Oui. Et il semble que c'est ce gaz-là, le volcan dégage le dioxyde de carbone qui est très dangereux. Dès que vous inhalez, il n'y a plus d'oxygène, vous perdez la vie.
C'est ce qui s'est fait remarquer même maintenant. Je suis maintenant dans le quartier sud de la ville de Goma, au quartier Imi. Et nous avons le stand, la poudre, que nous appelons des scories. Et c'est dangereux pour la vie, c'est dangereux, parce que plus vous êtes en train de le respirer, plus vous êtes en train de manger, par exemple, des petits beignets, etc. Sur les voitures qui n'ont pas bougé, on peut le voir, ces scories. Et donc, la population est appelée maintenant à laver les mains, à porter des masques, à porter des chapeaux pour éviter, n'est-ce pas, d'être en contact avec tous les dérivés de ces scories et en cette période. Et surtout dans le quartier Bouhéné, qui est proche, n'est-ce pas, de volcan Nyiragongo.
Bien. Merci. Restez en ligne. On va accueillir professeur Théophile Bemba, qui est docteur en chimie. Professeur, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission. Nous parlons aujourd'hui de ces cas de morts par asphyxie à Goma, des suites de, après avoir, certaines personnes ont inhalé le gaz qui sort du volcan. Alors dites-nous, professeur, comment pouvez-vous expliquer ce phénomène? On peut dire que la coulée des laves dégage aussi, dégage en même temps un gaz qui est mortel.
Oui, il dégage non pas un gaz, mais un mélange de gaz volcaniques. Hein, et dans ce mélange, les gaz auxquels réellement va créer des problèmes. Bien entendu, il y a le dioxyde de carbone, le CO2, mais il y a aussi d'autres gaz. Il y a aussi le dioxyde de soufre. Hein, et il y a aussi le monoxyde de carbone, le sulfure d'hydrogène, et même ça dégage aussi du chlorure d'hydrogène. Et donc, vous voyez, tout ce gaz, en majorité, vous voyez, sont des gaz acidifiants. Et donc, lorsque quelqu'un les inhale, La première chose, il arrive dans l'organisme, il va acidifier l'organisme. Et il va, c'est-à-dire qu'il est distribué à travers le sang, il acidifie l'organisme, hein, et à ce moment-là, il engraisse le voie respiratoire et il devient difficile à celui qui a inhalé de pouvoir tenir. Par ailleurs, il crée aussi, il y a des gaz comme le plus dangereux, le dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone. Mmh. Le dioxyde de soufre, le monoxyde de carbone. Parce que le dioxyde de soufre, il est irritant, il crée des lésions, hein, au niveau de voie respiratoire, du tractus respiratoire, il y aura des lésions. Hein, et il peut même aller jusqu'à que ces lésions finissent au niveau des poumons, au niveau de pharynx, ça peut donner des œdèmes. Hein, et donc, ça irrite l'organisme, hein, et ça dysfonctionne évidemment les organes qui sont atteints. Mais prenons aussi les cas de monoxyde de carbone. Mmh. Le monoxyde de carbone, lui, hein, lorsque vous l'inhalez, il va se fixer sur l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est ce qui aide à transporter l'oxygène que nous respirons à travers le sang pour être distribué au niveau des tissus et cellules. Et l'hémoglobine et le monoxyde de carbone, hein, a une affinité plus grande avec l'hémoglobine que même l'oxygène. Ce qui veut dire que si vous l'avez, automatiquement, lui, il va fixer premier à l'hémoglobine. L'oxygène n'a plus de place. Et en se fixant, il empêche à ce que l'oxygène arrive au niveau des tissus et au niveau des cellules et leur permettre de respirer. Mmh. Ça, c'est ce que le médecin appelle l'hypoxie cellulaire. Mais l'autre aspect aussi important, c'est que il se fixe aussi sur une protéine qu'on appelle la cytochrome oxydase. C'est la protéine qui aide à prendre l'oxygène pour le transformer en eau, terminer la respiration et fournir l'énergie à l'organisme, aussi à la cellule. Et donc, il se fixe aussi là-dessus. Et donc, il empêche même à la cellule, hein, de pouvoir respirer. Et donc, ceci ne peut conduire à des concentrations importantes, certainement, s'il n'y a pas d'intervention rapide à la mort. Voilà ce que je pourrais vous dire à ce qui concerne le mélange des gaz qu'on trouve au niveau de après une éruption volcanique.
Alors, Marengavo, est-ce qu'on peut dire que les fissures qu'il y a un peu partout à travers la ville, est-ce qu'il se dégage aussi du gaz à partir de ces fissures-là?
Oui, là où nous avons visité, il ne se dégage pas totalement du gaz, mais il y a une chaleur vraiment qui monte à puissance, qui est en train de sortir petit à petit. Le cas, par exemple, au niveau de l'hôpital général, mais pour les autres, comme au niveau de l'ISC et au niveau de Notre-Dame d'Afrique, et il n'y a pas encore de gaz qui se dégage, mais quand on est à ce niveau, on sent qu'il y a vraiment une chaleur qui est différente à côté de 1 mètre de surface qui les sépare avec l'heure normale où il n'y a pas de fissure.
D'accord. Alors, professeur, dites-nous, est-ce que vous dites que les volcans dégagent plusieurs gaz, il y a des gaz, un mélange des gaz qui peut conduire à l'asphyxie. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est le fait d'être exposé pendant longtemps, on inhale pendant longtemps ou bien juste quelques minutes et ces gaz auront des effets sur vous? Professeur Théophile Bemba.
Oui, déjà le fait, dès que vous êtes exposé face à ces gaz, vous les inhalez, ils sont toxiques, hein, et ils arrivent dans votre organisme, hein, et il va produire des effets. Maintenant, l'importance des effets dépend de la concentration, hein, des gaz que vous avez inhalés. Quand plus la concentration devient importante, plus la toxicité est plus grande, hein, et plus les effets peuvent conduire à la mort. Donc, bien entendu, il faut absolument éviter de s'y exposer, hein, hein, et surtout de se sauver longtemps parce que rien à faire, on n'y échappera pas.
Mmh. On n'y échappera pas. Nous avons en ligne Maître Gaston de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour.
Maître Gaston, quelle est votre question?
Oui, je voulais d'abord que l'invité, hein, surtout le professeur, puisse nous éclairer un peu. Vraiment qu'il puisse nous éclairer un peu, parce que nous n'arrivons pas à comprendre cette information sur ce qui se concernant ce qui se passe à d'abord sur le plan politique. Vous savez, il y a la Radio France Internationale qui avait annoncé au départ, là, parce que nous suivons les informations, nous savons quand est née cette information. Les chaînes internationales ont voulu nous faire croire que c'était pas un danger, bien que ça s'est fait de manière imprévue, mais c'était pas un danger pour les territoires des villes comme on évoque là, la ville comme Goma. Et puis on a même précisé que c'était loin de la ville. Et j'aimerais que le professeur puisse nous éclaircir sur tout ce qui s'est dit sur Goma. Est-ce que c'est la réalité?
Bon, aujourd'hui, on parle de la mort par asphyxie. Donc, on reste dans les sujets. On parle de tous ces gaz qui se dégagent du volcan. Alors, donc, merci d'avoir appelé.
Bon, s'il vous plaît,
oui.
S'il vous plaît, j'ai dit.
Oui.
Bon, si je pouvais rentrer dans les sujets, mais vous savez, des gaz là, hein, que les gens peuvent respirer, qui peuvent être nuisibles à la santé. Il n'y en a pas seulement pour ces effets-là. Je voulais aussi, en tant que biologiste, je ne sais pas, chimiste, le professeur pousse un peu nous éclaircir sur les gaz que nous respirons en soi, hein, partout sur la RDC, et les conséquences et comment prévenir l'air-là. Nos abondes, on vit dans la saleté et nous respirons. Il y a des morts qui interviennent et je veux qu'on puisse aussi faire des grands sujets sur ça. Mais par rapport au cas d'espèce, c'est ce que j'ai dit. Si ces gaz-là ont causé des morts par rapport au volcan de Goma, le professeur, il a des preuves quant à ça par rapport aux morts qui sont dit, et il pouvait avancer ses arguments scientifiques sur les cas de gaz-là. Mais moi, je pense que les images que nous voyons sur les réseaux sociaux, par exemple, concernant l'éruption du volcan qui a fait allusion, est-ce que ce sont des réalités ou quoi? Parce que je ne veux pas qu'on puisse aggraver certaines choses pendant ce moment. Et pourtant, les problèmes sont partout. Il y a ce coin-là qui est pris.
Donc, vous voulez dire que quand on parle de mort par asphyxie, c'est pas vrai? Il n'y a pas de gaz, d'après vous?
Non. Nous avons vu des images, nous avons vu des informations qu'il y a eu un volcan qui s'est, comme vous le savez, il y a à ce moment ici des gaz qui pouvait causer la mort. Ces gaz-là m'a causé la mort. Ça qu'on nous raconte aujourd'hui, c'est vrai. C'est là où je suis.
Bien, bien. Professeur, qu'est-ce que vous pouvez dire à M. Gaston de Kinshasa?
Ce que je peux lui dire, c'est tacter. Il y a eu cette éruption volcanique qui a causé des gaz. La situation est mauvaise, n'est pas bonne. Il y a certainement nombreux de nos compatriotes qui en souffrent. Et c'est suivi même ce matin des tremblements de terre. Les gens sont un peu sur le qui-vive, mais qu'avec la coulée de la lave rocheuse, il y a eu des gaz qui sont venus. Hein, et je le dis que ces gaz, parmi ces gaz volcaniques, il y a le dioxyde de carbone. Hein, il y a aussi le monoxyde de carbone. Il y a le dioxyde de soufre. Hein, on peut trouver aussi le sulfure d'hydrogène et même le chlorure d'hydrogène. Donc il y a différents gaz, évidemment. Il y a aussi des vapeurs d'eau. Donc il y a ces gaz. Mais parmi ces gaz, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont acidifiants. Hein. Quand ils arrivent dans l'organisme, ils vont acidifier l'organisme. En acidifiant l'organisme, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est sur le plan, le principe général. Acidifier l'organisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va rompre l'équilibre qu'il y a au niveau de notre organisme pour que nous soyons en bonne santé. Et l'équilibre qu'il y a pour que nous soyons en bonne santé, c'est que le pH de notre du sang qui circule, qui qui amène l'oxygène, de la lymphe qu'il y a dans notre organisme, et de tout le sérum dans lequel baignent les cellules. Leur pH, c'est 7,4. Alors, quand on dit que le corps est acidifié, cela veut dire qu'il va descendre à des pH plus bas, il deviendra plus acide. Et à ce moment-là, la rupture là est coupée. Et quand cet équilibre là est coupé, que le milieu devient acide, à ce moment-là, l'organisme ne peut entre en dysfonctionnement. Parce que pour fonctionner, il faut que le pH soit à 7,4. Et donc, beaucoup de ces gaz sont acidifiants. Ça, c'est clair. Et d'ailleurs, vous savez que même les larves, même aussi, il y en a qui sont basiques, mais il y en a aussi qui sont acides. Alors, pour parler des gaz, pour revenir aux gaz, j'explique, si vous ne m'avez pas bien suivi, c'est que le dioxyde de soufre, il est irritant. Il est irritant. Il crée, quand vous l'inhalez, il traverse, il se dissout facilement, il va causer des lésions par les voies respiratoires par lesquelles il passe. Et il peut même finir par provoquer
un étourdissement.
Pardon?
Est-ce que cela peut conduire à un étourdissement? On se sent, on perd le pédale et puis bon, voilà, après c'est la mort.
Oui, quand l'organisme s'acidifie, quand l'équilibre est rompu, on perd la stabilité, donc on est étourdi, on peut tomber, on se retrouve plus, c'est clair. C'est clair. Bien. Alors, l'autre aspect important que j'ai évoqué, c'est le fait que le sujet va manquer de l'oxygène. Parce que le monoxyde de carbone qui se fixe sur l'hémoglobine plus facilement que l'oxygène va prendre la place de l'oxygène. Et à ce moment-là, les cellules n'auront plus de l'oxygène et les cellules ne seront pas respirées. Et là, c'est la mort de la cellule.
On va accueillir Jonas Kabinda de Kananga. Bonjour.
Bonjour à l'invité. Je pense que vous allez bien.
Oui, très bien. Et vous-même?
Oui, je vais bien, merci, jeudi.
D'accord. Quelle est votre préoccupation par rapport à la mort par asphyxie?
Ah oui, merci. Avant de poser ma préoccupation, je souffrais que je demande au professeur de bien vouloir simplifier un peu le style. Il paraît un peu trop littéraire, que peut-être c'est pas tout le monde qui le perçoit, alors que l'émission est pédagogique et intéressante.
Alors, il utilise des termes beaucoup plus scientifiques, c'est ça?
Vraiment, oui, c'est vraiment trop scientifique. Peut-être que c'est pas tout le monde qui avait bien maîtrisé la chimie et la physique comme ça. Alors, je suis à Kananga. Nous n'avons pas de grandes montagnes qui puissent créer des gaz qui entraîneraient l'asphyxie. Néanmoins, il y a quand même par moments des véhicules qui fument, il y a de l'air qui se dégage, même naturellement. Alors, la préoccupation que j'ai, c'est celle-ci. Lorsque je suis à l'école primaire, je pense, j'avais étudié avec mon enseignant que dès qu'il est 18 heures, ne vous asseyez plus en dessous d'un arbre, parce que l'arbre dégagerait l'oxygène que l'homme ne pourrait pas inhaler. Mais actuellement, quand il fait très chaud, d'aucuns préfèrent rester sous l'arbre jusque même au-delà de 19 heures. Ça peut avoir quel inconvénient sur la santé. Et bien. En plus, il arrive des moments, par exemple, vous pouvez emprunter un petit raccourci, peut-être le long de rail pour déboucher sur tel ou tel autre coin. Mais tout le long de rail, là, vous savez ce qui se passe. Ce sont des toilettes pour certaines personnes. Alors, il y a une odeur très, très nauséabonde.
L'odeur des urines.
Des urines, des excréments, des selles et tout ça. Ça ne vous permet pas de respirer. Alors, vous êtes obligé un peu de bloquer à un moment donné la respiration. Mais vous vous sentez presque asphyxié à telle enceinte que vous devez vite libérer la respiration. Alors, mais on vous dit non, si vous ne savez pas retenir la respiration pendant 5-10 minutes, ça veut dire que vous êtes inapte, vous ne pratiquez pas le sport. Est-ce que la pratique du sport a aussi de l'influence sur la respiration, sur la santé?
D'accord, merci.
Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose là-dessus? Merci, Jody, et bonne journée.
Bien, on va retrouver Marin Gaveau depuis Goma. Marin, vous êtes là?
Oui, je suis là, jeudi.
Alors, dites-nous, est-ce que la société civile a pris le temps de sensibiliser la population de Goma pour dire faites attention, n'approchez pas les larves parce qu'il y a, des gaz toxiques qui peuvent conduire à la mort?
Oui, merci beaucoup. Avant de penser à cette question, je voulais d'abord vous informer que maintenant là, il y a une maison qui vient de s'écrouler dans la ville de Goma. À cause de ces tremblements.
Ouais.
La maison, c'est une maison à étage, se trouvant juste à la fin de la clôture de la maison de Maman Olive Lembe, en face de RVA, le bureau MONUSCO, et c'est vers le lac Kivu.
Est-ce qu'il y avait, des personnes à l'intérieur ou pas?
Bon, l'information vient de me être donnée tout de suite, les détails, on les aura après. Par rapport à la sensibilisation des populations sur comment éviter de se rendre dans les zones qui ont connu, n'est-ce pas, cette coulée de lave. La population, n'est-ce pas, est informée. Parce que nous avons été surpris, certes. Normalement, les équipes de l'OVG et de la protection civile devaient faire des sensibilisations avant l'éruption. Mais comme tout le monde a été surpris, le chef d'avenir, les chefs de quartier sont en train de dire à la population, nos noyaux de la société civile, de ne pas se rendre vers les zones atteintes par la lave et même d'éviter de rester dans les anciennes zones qui ont eu des fissures ou qui ont connu les laves lors de l'éruption volcanique de 2002. Je vais rappeler, n'est-ce pas, à un auditeur qui a posé la question, que les photos qu'on est en train de voir, certes, les réseaux sociaux, il y a certaines personnes qui envoient les photos des images.
Des images prises ailleurs, oui.
Ce qui a eu aujourd'hui, nous avons rencontré des enfants asphyxiés, des jeunes asphyxiés, un homme asphyxié dans sa toilette, les chèvres qui ont été asphyxiées, les personnes qui ont eu des brûlures et asphyxiées. Et pour l'information, ils sont traités à l'hôpital CBK d'Ocho. Donc, vous trouvez qu'ils ont des brûlures, qu'ils ont un peu séché et que leur position semble être envahie par le sol, être attirée vers leur dégât. La population de la ville de Goma est en train d'être sensibilisée petit à petit sur ne pas se rendre dans ces zones, éviter, n'est-ce pas, de toucher les cendres qu'il y a dans les zones supérieures, ne pas manger des légumes qui ne sont pas déjà cuits ou lavés, éviter d'acheter tout ce qu'on rencontre sur la route, les maléwa, et donc sont des sensibilisations qui sont maintenant en train d'être faites par les groupes de la société civile, les associations, les auxiliaires de santé, mais aussi avec les chefs de quartier et les Nyumbakoum.
Bien, merci. Professeur Théophile Bemba, est-ce qu'on peut entendre ce que Marin vient de dire? On peut comprendre que ces gaz peuvent aller même se poser sur les aliments, sur l'eau et tout ce que l'on consomme?
Oui, c'est d'ailleurs, scientifiquement, il est reporté que les gaz qui sont comme le CO2, hein, quand la lave, l'éruption volcanique coule, les gaz qui renvoient, quand il se dégazage, comme on dit, quand il y a dégazage, hein, comme il est lourd, il se dépose avant. Il se dépose et puis après, par le vent, hein, il va dans l'environnement proche. Donc, ce que vous dites est vrai, c'est que ce sont des gaz qui sont plus lourds que l'air, hein, ils se déposent, en tout cas, que ce soit le CO2, le SO2, mais lui, il est une densité plus proche quand de l'air, mais ils peuvent se déposer autour de ce qu'ils trouvent dans leur environnement et qu'effectivement, il vaut mieux ne pas être proche, quoi.
Bien. On va.
Alors, je vais revenir parce que tout à l'heure, un des auditeurs disait que j'étais trop scientifique, qu'il fallait...
que vous utilisiez des termes trop... il fallait vulgariser des termes beaucoup plus simples pour permettre une bonne compréhension.
Voilà, vulgariser pour une bonne compréhension, c'est que... je crois que ça, tout le monde peut comprendre, c'est que lorsque il y a éruption volcanique, les laves rocheuses coulent, ils émettent des gaz. Et ces gaz, parmi ces gaz-là qu'ils émettent, il y en a qui sont toxiques. Pour en avoir cité le CO2, c'est qu'on appelle habituellement le gaz carbonique. Vous savez, notre organisme, tel que nous fonctionnons, nous nous nourrissons, notre organisme digère, à l'issue de cette digestion, pour nous donner de l'énergie, il émet du CO2. Donc le CO2 n'est pas pour rester dans notre corps, mais c'est pour sortir. Et quand il ressort, un des auditeurs tout à l'heure là a évoqué le problème de l'oxygène à côté des plantes. Non, quand il ressort, on souhaite des forêts pour que les forêts le récupèrent et fabriquer ce qui sera utile pour l'homme. Voyez-vous? Et donc, c'est dont l'homme a le plus besoin, c'est l'oxygène. Alors, les autres gaz, là, ils vous blessent. C'est irritant, ça vous irrite. Ça crée des problèmes dans les corps. Et ça empêche l'oxygène qui nous aide à respirer d'arriver là où il doit arriver pour que le corps respire et fonctionne. Et c'est ce qui fait que ça vous empêche de vivre quand les concentrations sont élevées. C'est-à-dire que la toxicité est importante.
Le marin nous a dit tout à l'heure que même les chèvres, il y a des enfants qui ont quelqu'un dans la toilette a inhalé le gaz et puis la personne a été asphyxiée. On va accueillir Joël Zakissa de Mahagui. Bonjour. Bonjour Joël.
Bonjour Jody et bonjour à notre invité du jour.
On vous écoute Joël.
Oui, je suis vraiment heureux de pouvoir une fois de plus intervenir. Parce que ça fait beaucoup de temps que la radio Capi émettait difficilement à Mahagui. Ok, j'ai un peu trois préoccupations que je vais pouvoir parler à notre invité. La première, par rapport à cette terre-là, polluée actuellement à Goma, est-ce qu'il n'existe pas donc un moyen de pouvoir désinfecter un peu l'espace comme si c'était les cas des coronavirus, même avec les hélicos, en fait, quand même, la population respire un bon air. Là, sur la première. La deuxième, est-ce que l'invité est peut-être ensemble avec le gouvernement? On a déjà fait peut-être appel à une équipe d'experts, en fait, d'étudier profondément ces volcans pour prévenir les dégâts qui peuvent surgir à tout moment au Congo entier. Et la dernière, et moi, je proposerais quand même à nos frères et sœurs de Goma de pouvoir un peu quitter, là, ça va nécessiter quand même l'intervention de l'État, de pouvoir disponibiliser un endroit où tout le monde serait quand même là, le temps que les histoires des volcans en sirop en train un peu de menacer. Donc, que la population nous soit quand même loin de là. Et sinon, en tout cas, ça risque de causer des dégâts quotidiens, et là, ça sera vraiment catastrophique. Donc, il faudra qu'un peu les gens puissent laisser cet endroit-là, qu'ils soient un peu loin, pour qu'ils commencent à vaquer à des petites activités qui peuvent quand même subvenir aux besoins primaires. Mais dans l'immédiat, là, on vient de dire qu'il y a une maison qui vient de s'écouler. Et c'est que ça peut aussi causer autres dégâts. Alors, pour quand même prévenir aussi les autres histoires, pour que les gens laissent quand même cet endroit-là et être un peu de côté afin d'attendre ce que l'État peut faire pour que les situations deviennent normales. Je vous dis et je vous remercie.
Bien. Monsieur Marin, vous avez suivi ces auditeurs qui pensent que l'air, l'environnement est pollué, l'air est pollué avec tous ces gaz à Goma et qu'il faudrait déplacer la population pour un moment. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire, Marin?
Merci beaucoup. J'ai bien écouté l'auditeur. Il a raison parce que c'est un élément qui affecte la vie des personnes. Mais nous allons l'informer aussi que dans le monde entier, il y a des pays où on a adapté sa vie au volcan. Il y en a beaucoup. Il faut savoir vivre avec le volcan. Ça commence par l'étude de l'évolution de la lave, ça commence par la mise en place des plans de contingence, ça commence aussi par la gestion même de la canalisation de l'Arve. Vous allez comprendre que la ville de Goma, c'est parmi les villes où les gens ont tellement investi, là où les gens ont construit. La ville de Goma serait même la deuxième ville bien construite au niveau de routes, des bâtiments de la RDC. Et nous pensons que s'il faut qu'il y ait quelqu'un qui proposerait ce plan de délocaliser la ville ou de faire vider la ville, n'est-ce pas, de la population, vraiment, il faut qu'il ait un plan cohérent avec toutes les autres alternatives par rapport à la gestion des personnes qui sont là-bas et des économies. Nous vous informons également, parce qu'en direct, qu'il y a maintenant une grande fissure au niveau de Mogoma. Mogoma, ça se trouve juste à côté du lac, au niveau du port, et il y a une fissure qui se passe là-bas, et il y a déjà une antenne, et le pied de colonne qui est maintenant fissuré. Mais nous pensons que la gestion de ce drame va de la responsabilité aussi des autorités dans la mise en place, n'est-ce pas, des mesures, des recherches, d'informations et le respect des plans de contingence qu'il peut y avoir. Mais la question de savoir est-ce qu'il y a le gaz, on peut quitter. Nous pensons que aujourd'hui et maintenant, la population a besoin de l'eau, la population a besoin de la nourriture, la population a besoin des médicaments et matériels essentiels de santé. La population plutôt a besoin des abris provisoires, des literies et couverts, et il faut un appui aux malades accidentés, les malades brûlés par la lave, et surtout sécuriser les personnes de troisième âge et les personnes en situation de handicap qui vivaient dans Bouéné.
Bien. Professeur Théophile, vous avez suivi la préoccupation de l'auditeur qui dit que, d'après lui, l'air de Goma aujourd'hui est pollué. Est-ce qu'il y a des mécanismes pour... D'abord, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a aussi... Il existe-t-il des mécanismes pour dépolluer l'air, l'environnement?
Ben, merci. Il a raison. C'est certainement que... Surtout à la proximité de la coulée de l'Arve, c'est sûr que la population qui y vive doit faire très, très, très attentive. Mais je crois que ce qui doit préoccuper pour le moment, c'est que au niveau du gouvernement en principe, il va y avoir une équipe certainement pour la gestion des catastrophes naturelles. Et c'est une catastrophe qui est arrivée. Alors, pour gérer cette catastrophe, c'est cette équipe-là qui est certainement, avec les humanitaires qui doivent, en étant sur place, d'ailleurs, il y a une délégation même du gouvernement
qui est là-bas,
examiner vraiment sérieusement la situation, et prendre les mesures appropriées pour sécuriser la population, pour atténuer toutes ces peines que les populations de Goma endurent. Donc c'est clair qu'il y a des mesures d'assainissement qui doivent être prises. Moi je me souviens, je permets de le dire, en 2002, j'étais à Goma. Quand il y avait cette lave-là, j'étais à ce moment-là, j'avais des fonctions d'État. Et on est allé, le gros travail était justement d'aider avec le gouverneur Serofouli à l'époque à ce que vraiment qu'on nettoie la ville pour que la population puisse commencer à reprendre sa vie. Mais à côté de cela, j'aimerais relever aussi une préoccupation importante qu'un des auditeurs a relevé, c'est la possibilité d'étudier pour prévenir les dégâts. Et ça, c'est un problème important. On sait que Nyiragongo est là, il existe depuis, il a déjà causé des dégâts. C'est un problème qui est national et qui doit préoccuper au plus haut point.
Pourquoi? Parce que il y a un observatoire de ce volcan. Et cet observatoire de volcan, quelle est sa mission? Sa mission, justement, c'est de suivre, d'observer, de faire des prélèvements des échantillons. Parce que les gaz dont on parle, il y en a qui s'échappent. Ils s'échappent même quand il n'y a pas de coulée de lave. Ils s'échappent. Mmh. Mais ça a des concentrations qui ne sont vraiment pas du tout toxiques. À faible concentration. Alors, lorsqu'il y a un suivi régulier, permanent, avec prélèvement des échantillons, analyse.
Est-ce qu'il existe des appareils, par exemple, pour mesurer le taux de du gaz dans l'atmosphère?
Si, mais ça existe. Mais ailleurs, qu'est-ce qui se fait? Normalement, on devrait encourager la recherche scientifique. Et d'ailleurs, je ne dirais pas seulement dans le domaine géologique, mais dans tous les domaines. Lorsque on veut vraiment aider à ce qu'il y ait des progrès dans le pays, à ce que les choses changent, il faut pousser, investir dans la science et dans la technologie. Et là, pour le cas d'Iragongola, je sais qu'il y a, le Japon, d'après mes informations, il y a un appui important, je crois, du Japon, et ils sont censés avoir du matériel, mais sachez qu'il est même que depuis le mois d'octobre dernier, ils n'avaient plus été en mesure de suivre, de faire des prélèvements et donner un rapport régulier sur ce qui se passe là-bas, parce qu'ils n'avaient plus de financement. Ils n'avaient pas de moyens.
Oui, professeur, il y a un auditeur a posé la question tout à l'heure de savoir le fait d'inhaler, par exemple, l'odeur des urines et des selles. Il y a certaines rues à Kanangaou, à Kinshasa, où les gens font les urines, vont pisser sur les murs, et puis bon, il y a une concentration extraordinaire des odeurs. Est-ce que cela peut être toxique?
La toxicité est fonction de la... Évidemment, il y a des composés qui sont identifiés être toxiques. Et que ceux qui ont une toxicité, on peut mesurer cette toxicité. Et il y a une toxicité qui peut être légère, donc qui peut être passagère, qu'on peut soigner. Mais il y en a qui peut être aiguë, et qui peut causer des graves problèmes. N'est-ce pas? C'est comme ça qu'on veille à ce que l'air que nous respirons puisse être sain. N'est-ce pas? Et c'est comme ça qu'on, justement, on s'en plaint de la pollution de l'air. Donc, ce que nous respirons, il y a des urines qu'on sent. D'abord, les urines sont fortement acidifiées. Tous les déchets de l'organisme passent par là. Ils sont évacués du corps. Donc, ce n'est pas bon pour la vie. Ça a évité. Ça indispose. Certainement, ce qui est là-dedans n'est pas bon pour la santé. Mmh. Je conseillerais ce qu'il faut se mettre loin.
Oui. Alors ceux qui sont à Goma actuellement, donc on peut comprendre que l'air est complètement pollué, mais c'est beaucoup plus dangereux quand on se rapproche de lave du volcan.
Oui, c'est ce que je disais. Je dis bien que c'est un problème de concentration de ces gaz dans l'air. C'est-à-dire certainement au moment du dégazage des laves, il y a eu des concentrations importantes aux alentours des endroits où la lave a coulé. Mais maintenant, au bout de 3 jours passés, il est clair que ces gaz aussi va dans l'air avec le vent et tout. Et c'est là qu'il faut des prélèvements. Il faut des prélèvements des échantillons de gaz, d'analyse sérieuse pour définir la concentration et pouvoir alors tirer la conclusion que l'atmosphère est polluée ou pas. On ne peut pas le dire à la légèreté comme ça, non.
D'accord. On va accueillir Serge Kalobia de Kindu. Bonjour Serge.
Oui, bonjour. Radio Capier, bonjour aussi à l'invité et
toutes mes compassions à la population de Goma.
Quelle est votre préoccupation, Serge?
Oui, oui, ma préoccupation est que j'ai au moins deux à trois préoccupations que je voudrais un peu poser à l'invité. La première est qu'après l'éruption volcanique, hein, combien de mètres autour du volcan reste toxique et pendant combien de temps? Parce que les professeurs, là, je les vois en train d'expliquer, c'est dangereux d'en aller cette terre-là de Goma, c'est beaucoup plus dangereux encore de vous approcher au lac. Maintenant, je voudrais savoir combien de temps l'air peut rester toxique dans la ville de Goma. Et aussi, selon les études scientifiques, la deuxième question, selon les études scientifiques vérifiées, est-ce que les volcans peuvent menacer combien de fois par décennie? Hein, combien de fois par décennie les volcans peuvent menacer pour que les gens soient toujours aux aguets? Parce que si on attend de notre gouvernement, le gouvernement est toujours surtout préoccupé par rapport au COVID-19, par rapport à la guerre au Nord Kivu. Voilà aussi notre guerre qui vient de se classer. Mais si la population serait informée, au moins on pouvait commencer de nous-mêmes à nous sensibiliser. Donc voilà, le professeur nous a dit un jour à la radio Capi, après 5 ans, 7 ans, nous devons toujours commencer à être attentionné par rapport au volcan. Et je voudrais aussi poser la question au professeur par rapport à l'asphyxie. Vous savez, chez nous, au Congo, en République démocratique du Congo, nous pratiquons l'agriculture traditionnelle. C'est-à-dire, on cultive avec la main, avec la machette. Vous dépassez deux semaines, trois semaines. Maintenant, vous mettez le feu de brousse. Ce feu-là, ce fumet-là, hein, quand vous avez déjà mis le feu, ce fumet-là, peut créer l'asphyxie, parce que nous voyons ici nos grands-parents, nous-mêmes, nous cultivons, nous entrons, nous passons partout et sous les fumées. Et on peut sortir comme ça, les yeux sont déjà rouges, vous ne voyez ni même plus. Est-ce que nous devons déjà commencer à faire attention de peur d'être asphyxiés un jour et de mourir? Ou carrément, on continue toujours parce que c'est notre mode de vie.
D'accord, donc, merci. Si je voudrais pas... merci beaucoup. Marin Gabo, vous êtes toujours en ligne? Marin, vous êtes là?
Oui, je vous capte.
Oui. Alors, il y a une question. Par exemple, combien de mètres faut-il se tenir, ne pas s'approcher du volcan? Ça, c'est la question de Serge. Il veut dire qu'il faut se tenir à quelle distance? Et quelles sont les précautions à prendre pour éviter d'inhaler le gaz?
Je ne suis pas spécialiste du volcan. Je pense que cette question pouvait être posée
au professeur. Oui, mais peut-être que sur place là-bas.
Les autres questions, je vous informe que à Goma toujours, parce qu'on est en live, ce dernier tremblement de terre il y a 10 minutes vient de créer encore une fissure. Le bureau provincial de DGM vers le centre-ville, autour de 500 mètres de la ville de Goma. Aussi, la maison qui s'est écroulée, déjà il y a un cas de mort et de blessés.
Oh là là. Alors, par rapport à sa question, peut-être que sur place, les experts de l'OVG ont sensibilisé la population en disant il faut pas vous approcher des laves, il faut se maintenir à telle ou telle autre distance. Voilà, c'est dans ce sens-là.
Ok, dans les communications de protection par les scientifiques de l'Observatoire volcanologique de Goma, il n'a pas été dit précisément si à combien de kilomètres faut-il se tenir après éruption ou après combien de temps l'air reste toujours toxique. Mais ils nous ont dit seulement de ne pas aller dans ces zones-là, de ne pas aller marcher sur la lave. Alors, mais par rapport à ces précisions de combien de temps, combien de kilomètres,
ça, vous n'avez pas.
Il faut voir le service. Technique.
D'accord. Et par rapport à la nourriture, il ne faut plus acheter vous avez dit les maléwa, tout ce qui se vend.
Par rapport à la nourriture, comme vous savez, il y a la cendre volcanique qui est en train d'arroser la ville. C'était d'abord au nord, dans le quartier nord de la ville de Goma, y compris, bien entendu, le territoire de Nyiragongo. Maintenant, ici, dans le quartier sud, il y a aussi ce cendre qui est visible. Si vous avez votre téléphone, vous voyez sur l'écran, ça se trouve. Si vous avez une voiture stationnée, si vous mettez un papier duplicateur blanc comme ça, et après un temps vous le trouvez. Donc, nous avons dit et nous sommes en train de sensibiliser les gens sur porter les masques comme on fait avec Covid, porter les képis pour ne pas se voir être touché par ce cendre, ne pas manger des choses qui ne sont pas laver, ça veut dire de fruits, de carottes,
et légumes,
etc. Et donc ça sont des premières mesures de protection sanitaire que l'OVG a dit et que nous, nous sommes en train de répercuter auprès de la population, d'éviter les zones qui jadis ont été affectées par les larves. Et ces zones arrivent jusque vers le lac, vers le Kasseti. Et c'est dans ces zones-là où on remarque actuellement des fissures. Mais aussi de ne pas rester à côté des longs bâtiments ou dans de grands bâtiments, mais aussi rester au niveau dans les endroits divers. Malheureusement, les nuits, il y a de la pluie. Alors nous sommes dans une confusion. Est-ce qu'il faut rester à l'extérieur? Il faut des tentes alors qu'il y a la pluie. Donc, Paul est à nous, la population, mais essayons de maintenir, n'est-ce pas, ces mesures et attendons que peut-être les tremblements vont cesser.
Bien. Marin Gaveau, président de la société civile de Goma, merci et à la prochaine.
Merci beaucoup et merci à tous les auditeurs de la radio Okapi.
Professeur Théophile Bemba, donc on peut retenir que la cendre même qui se dégage de ce volcan est dangereuse pour la santé.
La cendre. Allô?
Oui, allez-y professeur.
Oui, je vous ai pas bien suivi.
Oui, on peut retenir que la cendre qui se dégage même de ce volcan est dangereuse, surtout s'il se pose sur les aliments ou sur les autres... les fruits et légumes, donc la précaution, il faut bien les laver et éviter d'être en contact avec cette cendre là.
Oui, donc on bien entendu qu'il faut prendre les mesures nécessaires d'hygiène pour garantir la sécurité nutritionnelle au ménage. Ça c'est évident. Quand on ne sait pas on sait que ça sort justement du volcan, de l'éruption volcanique, avec ce mélange qu'il peut contenir. Ah, c'est normal. C'est normal qu'il faut le faire. Mais encore une fois, tout ceci nécessite à ce que, vraiment sur place, je l'espère, je le souhaite, que la population soit prise en charge, que l'événement soit pris en charge, pour justement donner les conseils appropriés, les communications qui sont nécessaires pour que la population ne puisse pas être exposée au danger. Alors, c'est comme ça que tout à l'heure, là, un des auditeurs qui parlait de la distance à tenir. Bon, on sait qu'il y a le 5 à 7 mois qu'il y a eu d'asphyxie, et il est reporté qu'ils sont allés là où il y avait les larves. Ils étaient
proches. À proximité, oui.
Oui, à proximité. Donc, je crois, et de là, le conseil qu'on tire, c'est qu'il faut conseiller aux gens vraiment d'être à proximité des larves. Il faut prendre des distances. Mais maintenant, jusqu'à combien de mètres? Ça, c'est quelque chose qui ne peut venir qu'après...
des études.
Une étude scientifique sérieuse avec prélèvement des gaz pour dire, écoutez, non, ce rayon est pollué ou il n'est pas pollué. Donc, j'ai dit que effectivement, à proximité de l'âme, il faut qu'il s'agisse de la nourriture, qu'il s'agisse... Et d'ailleurs, je suis certain que certains, au niveau de leur peau aussi, certainement sentent des irritations. Donc il faut éviter d'être proche pour éviter d'être contaminé.
Bien, professeur Théophile Bemba, je rappelle que vous êtes docteur en chimie. Merci d'avoir répondu.
En chimie, bien sûr.
Merci d'avoir répondu.
En chimie, mais spécialisé en biochimie.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup. À la prochaine.